100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Ce que vous avez manqué dans Accent d'Europe ces derniers mois, vous pouvez l'entendre aujourd'hui avec cette rediffusion estivale. L'univers du luxe est celui des demandeurs d'asile, a priori deux milieux que tout oppose. Et pourtant, en Italie, entre Venise et Padoue, le long de la rivière Brenta, berceau traditionnel des ateliers prestigieux de la mode italienne, des entreprises qui ont résisté à la crise se sont transformées en coopératives sociales, un parcours d'insertion pour des migrants qu'a suivi Cécile Debarge.
Apri. Apri che comincio da lì.
Prego, accomodiamoci di qua.
Roberto Gentile est le responsable de Solidalia, une coopérative sociale et solidaire qui a repris en main une usine de textile haut de gamme qui était sur le point de fermer.
Ici, on prépare le tissu, différentes formes, différentes matières, différents dessins. On programme les motifs sur ordinateur et ensuite on les imprime sur le tissu.
Dans le bruit assourdissant des métiers à tisser, Roberto Gentile montre fièrement les tissus qui serviront à confectionner les pièces de prêt-à-porter de luxe assemblées dans l'atelier Atzmann.
On a même fait des habits pour le couple princier. Le fils de Kate s'est passé dans la revue Vogue. On fait que du haut de gamme, des pièces qui valent quelques centaines de milliers d'euros.
Ouverte depuis octobre 2014, la coopérative emploie d'anciens toxicomanes, des ex-détenus, des personnes en situation de handicap ou encore des demandeurs d'asile, les plus nombreux dans les ateliers de vêtements et de chaussures.
On fait en sorte qu'ils sachent ce que veut dire travailler. On fait un peu de production, même si la rentabilité est nulle.
Derrière une énorme machine verte et grise, Lorenz cloue les semelles des chaussures à une vitesse impressionnante.
Je suis en train de faire la préparation pour la prochaine phase de production de la chaussure.
Moins d'une minute par pièce, explique ce jeune Nigérian qui travaille pour la coopérative depuis près d'un an, soit quelques mois seulement après son arrivée.
Je suis arrivé en Italie en mars 2016, c'est toujours mieux de s'occuper et de trouver un travail.
Comme lui, entre 130 et 150 employés travaillent dans les ateliers, dont trois anciens employés, aujourd'hui devenus maîtres artisans et qui enseignent au nouveau les techniques de la cordonnerie et du prêt-à-porter de luxe, explique Roberto Gentile.
En plus, on fait revenir un savoir-faire qui avait disparu en travaillant avec des maîtres artisans, des personnes plus âgées qui savent travailler.
À l'étage, loin du bruit des machines des ateliers du rez-de-chaussée, Maurizio Dell'Amico jette un coup d'œil aux grandes tables où une dizaine de personnes travaillent. Ici, les produits sont simples, on monte des stylos, des palettes de peinture à l'eau pour les enfants ou encore on conditionne des élastiques pour les cheveux. Des tâches basiques par lesquelles tout le monde passe.
Ce serait trop facile de prendre quelqu'un, notamment un demandeur d'asile, de le mettre dans une usine et lui dire « Allez, travaille !» Nous, ce qu'on essaie de faire en tant que coopérative, c'est d'avoir des projets individuels en fonction des personnes. Individuels, ça veut dire comprendre quelles sont les capacités de chacun.
Pendant plusieurs semaines, le travail de chaque nouvel arrivant est suivi de près, explique le travailleur social de la coopérative.
Il y a des personnes qui arrivent plus traumatisées que d'autres et leur adhésion au projet de travail à des horaires, mais aussi leur capacité et leur disponibilité pour apprendre sont limitées.
Pour ceux qui franchissent cette étape, c'est le travail sur les chaînes de montage du rez-de-chaussée à l'atelier de chaussures ou de vêtements. Un stage limité à 12 mois maximum est rémunéré au minimum 400 euros via ensuite l'insertion professionnelle dans une entreprise extérieure.
Nous, quand on a formé une personne qui apprend un travail, on l'insère dans une autre entreprise. Moi, je vais les voir et je leur dis, j'ai à disposition quelqu'un qui sait plier la tôle. Et alors, eux me disent, ok, envoie-le. Ensuite, il fait deux ou trois jours d'essai et si ça marche, il travaillera pour trois ou six mois au sein de cette entreprise.
Un succès qui servira d'exemple, espère Maurizio Dell'Amico.
C'est un projet pilote, un début, c'est un essai. Bien sûr, le but est d'insérer les personnes, mais plus encore, c'est de sensibiliser un territoire et de montrer que c'est possible, que ce n'est pas bizarre ni difficile à faire. C'est la preuve que c'est possible sur ce territoire.
Depuis son ouverture, la coopérative bat ses comptes à l'équilibre et a réussi à s'agrandir. Le dernier atelier a été ouvert en avril 2017 et c'est de ces machines qu'est sortie la couverture qui a fini dans la chambre du prince George.
Vent de censure en Espagne dans le contexte de crise politique avec la Catalogne. Les artistes sont contraints de rentrer dans le rang. En cause, la loi sur la sécurité publique adoptée en 2015 et que ses détracteurs surnomment loi Bayon. À Madrid, François Musso.
Tout a commencé il y a peu à Arco, la grande fête annuelle de l'art contemporain à Madrid. L'artiste Santiago Sierra a présenté un immense mural avec les photos d'une dizaine de leaders séparatistes catalans incarcérés, des photos en noir et blanc, griffées de l'expression « prisonnier politique ». Rappelons que pour les autorités espagnoles, ce ne sont que des politiques prisonniers qui ont enfreint la législation en vigueur. L'organisation d'Arco, qui dépend du ministre de la Culture, a retiré ces photos. Peu après, le rappeur de Majorque, Valtònyc, a dénoncé dans un texte chanté, je cite, « le caractère fasciste de l'actuelle monarchie ». Il a aussitôt été placé en prison préventive. Dans la foulée, même si cela n'a rien à voir, 20 000 exemplaires d'un livre journalistique sur la mafia de la cocaïne en Galice ont été saisis par un juge avec l'interdiction de les publier. Effet ironique, la maison d'édition est au bord de la faillite. Parallèlement, une dizaine de personnes sont poursuivies par la justice pour, je cite, « encouragement au terrorisme » pour avoir prononcé des paroles en faveur de ETA. Dans les médias espagnols, on s'inquiète de ces actes de censure qui rappellent tristement, soulignent des éditorialistes, la censure de l'époque de la dictature franquiste.
Il manifeste contre une centrale nucléaire située dans un pays voisin. En Autriche, non content d'avoir interdit le nucléaire dans leur pays depuis 1978, les anti-atomes s'opposent désormais aux subventions autorisées pour la centrale hongroise de Paks. Subventions qui fausseraient le marché de l'énergie. Une plainte a donc été déposée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Reportage à Vienne de Céline Béal.
Une petite quarantaine de militants scandent leurs réclamations en direction des fenêtres du chef de gouvernement, le conservateur Sébastien Kurz. La première, Monsieur le chancelier, notre demande, pas de nouveaux réacteurs aux frontières de l'Autriche. Dans la République alpine, le nucléaire est déjà hors la loi depuis 1978. Maintenant, les activistes mènent le combat contre les centrales dans le reste de l'Europe. Leur argument, en cas d'accident, la radioactivité ne s'arrête pas aux frontières. Paola Stegmüller, porte-parole de la plateforme viennoise pour un futur sans atomes, a beaucoup de revendications. Mais elle considère déjà que la plainte déposée par Vienne à la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la centrale nucléaire hongroise de Paks est un pas dans la bonne direction.
Je trouve que c'est une initiative courageuse. L'Autriche est un petit pays, mais déjà connu et redouté, parce que dès qu'il y a quelque chose qui est entrepris contre l'atome, l'Autriche est toujours aux avant-postes.
Le gouvernement considère que les États qui financent de nouveaux réacteurs nucléaires enfreignent les règles communautaires en matière de subventions, en créant une concurrence déloyale. Une plainte dans ce sens avait déjà été formulée contre l'EPR britannique de Hinkley Point, sur laquelle la Cour de justice européenne doit encore se prononcer. En février, c'est la ministre conservatrice Elisabeth Köstinger qui a annoncé la plainte contre la centrale hongroise de Paks. Mais conservateurs, extrême droite, verts ou sociaux-démocrates, tous sont sur la même ligne. Ainsi, les coalitions se succèdent au pouvoir, mais au ministère du Développement durable, un homme reste. Andreas Molin dirige depuis plus de 20 ans le service de la coordination des affaires nucléaires.
Nous essayons sur mandat du gouvernement de convaincre d'autres États que l'énergie atomique n'est pas une bonne solution, ni pour le changement climatique, ni pour le développement durable.
Et si les autres décident tout de même de recourir au nucléaire, alors ils veillent à ce que son utilisation soit strictement encadrée, en participant à l'élaboration de réglementations européennes.
Et quand ces réglementations sont là, alors il faut quelqu'un qui garde l'œil sur leur application. C'est un rôle, celui de voix de la conscience, que nous sommes tout à fait capables de jouer et que nous jouons.
Le combat antinucléaire, un formidable ciment idéologique national. À l'Université viennoise de sciences sociales, le doctorant Florian Bayer estime que le débat a commencé dans les années 70, lorsque, suite à un référendum, le gouvernement a renoncé à mettre la centrale de Zwentendorf en activité.
Puis le grand changement, la fin de la controverse est arrivée avec l'accident du réacteur à Tchernobyl en 1986. Il a plus ou moins coïncidé avec la campagne présidentielle et on a tout de suite vu les candidats des deux grands partis prendre position, avec véhémence, contre la mise en service de Zwentendorf, qui ont dit qu'il fallait voir les choses en face et que ce n'était pas une forme d'énergie sûre.
Aujourd'hui, non seulement aucun parti ne remettrait le statu quo en cause, mais les politiques ont aussi compris qu'ils pouvaient tirer parti de leur activisme sur la scène internationale.
C'est une manière pour tous les gouvernements de se donner une bonne image à peu de frais, en disant « Je m'engage à l'international contre l'énergie atomique. Nous allons porter plainte, nous allons faire ceci et cela. »
Conviction, intérêt, patriotisme et stratégie politicienne. Voilà les éléments qui propulsent la croisade autrichienne contre le nucléaire en Europe. Quant à son bien fondé juridique, il faudra attendre le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne pour en avoir une idée. Cela peut prendre des années.
La Russie d'aujourd'hui n'est pas celle du passé. À Moscou, il existe une chaîne de télévision indépendante créée en 2010. C'est Deutsche, la pluie. Elle couvre tous les sujets bannis par les télévisions d'État. Elle est immédiatement devenue extrêmement populaire et puisqu'elle a attiré l'attention du public, elle a aussi attiré celle des autorités.
Moscou, l'info dans la tourmente, c'est le documentaire qu'Alexandra Sologoub a consacré à la chaîne de télévision russe Deutsche, la principale chaîne d'information indépendante qui était suivie par 10 millions de téléspectateurs avant d'être interdite du câble. À l'origine de cette chaîne, on trouve Natalia Sindeyeva, très impliquée avec une jeune rédaction. Qui est-elle? Son portrait par Alexandra Sologoub au micro de Catherine Roland.
C'est une femme des médias. En fait, elle a une radio qu'elle a créée, fait grandir et qui est devenue une des radios les plus écoutées. Et puis elle l'a laissée et elle a voulu créer une nouvelle chaîne avec son nouveau mari.
La chaîne est devenue très vite populaire. Le pouvoir russe n'a pas du tout apprécié le ton des journalistes et leurs enquêtes. Et Deutsche le paye cher aujourd'hui.
Le paye très cher. C'est une télé qui a été regardée sur le câble par énormément de téléspectateurs. Aujourd'hui, elle a été enlevée de tous les opérateurs du câble et elle est devenue une chaîne sur Internet payante, avec donc, dans cette période de crise pour la Russie, beaucoup moins de personnes en mesure de la payer. En tout cas, en Russie, payer pour avoir de l'information, pour regarder la télé, ça ne se fait absolument pas. Ça veut dire qu'ils sont forcément un peu douteux aussi. Donc c'était un vrai challenge pour Natalia et son équipe de réussir à faire exister ce nouveau modèle et à trouver un peu et de plus en plus de poids dans la sphère des médias.
Alors, ce qu'on constate, on le voit bien dans votre documentaire, la rédaction est très jeune, elle ne s'interdit rien, aucun sujet n'est tabou finalement.
En tout cas, ils essayent, et c'est, je crois, ce qui m'a beaucoup touchée, de continuer coûte que coûte, malgré une pression financière, mais morale aussi. Les reporters sont souvent arrêtés, enfin, il y a vraiment une fatigue. Ils essayent de continuer à être le plus objectif possible, à travailler avec le plus d'éthique possible.
Et oui, on le voit à travers la construction de l'information et des reportages, que c'est pas du tout facile pour eux. Les témoins, notamment, sont très difficiles à faire parler devant une caméra.
C'est une des choses les plus difficiles. Prendre la parole, s'exposer. Aujourd'hui en Russie, je crois qu'on peut risquer gros. Il y a beaucoup d'affaires en ce moment qui témoignent de ça.
Le journaliste un peu vedette, Tiron Tsiatko, dit aujourd'hui on peut tuer quasiment toute impunité des journalistes en Russie.
Il dit aussi que c'est pas le plus compliqué pour faire son travail aujourd'hui. Il dit que ça peut arriver même à un journaliste d'une télévision d'État, parce qu'on peut toujours franchir la ligne rouge d'un oligarque, de quelqu'un du pouvoir.
Et malgré tout, dans cette chaîne, les reporters, les journalistes prennent des risques. Et là, c'est le reporter de guerre, Timur Levski, qui le dit. Hein. Le but, finalement, c'est de faire réfléchir les gens. Donc, ils ont idéalisé le métier de journaliste. suite.
Et c'est aussi ça qui m'a plu, cette fraîcheur que je trouve ils portent tous. Dans les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui sont obligés de s'engager. Et donc, toutes les valeurs qu'ils portent, ils les portent très haut. C'est ça qui m'a beaucoup séduit.
Oui, c'est ce que dit d'ailleurs Natalia Sineva. À un moment donné, elle demande aux jeunes de s'engager dans le journalisme.
Elle garde cet élan permanent, cette femme. Et elle essaye de convoquer au maximum les autres. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui... Et difficile, c'est de sortir de cette espèce de désabusement qui peut exister dans la société civile russe.
Alors malgré leur combativité, deux journalistes au moins ont préféré quitter la chaîne. L'un est parti aux États-Unis, l'autre en République tchèque. Donc c'est preuve que c'est très difficile malgré tout d'exercer ce métier en Russie actuellement.
Celui qui est parti aux États-Unis, Tyrone, est revenu. Et Timur, oui, effectivement, il est encore en République tchèque et apprécie beaucoup d'être là où il est et de pouvoir parler librement.
Et comment se porte la chaîne aujourd'hui, juste à la veille de l'élection présidentielle ?
Elle lâche rien, fidèle à elle-même.
Les pressions sont toujours aussi fortes ?
Oui. Alors, sur la chaîne elle-même, peut-être pas directement. De toute façon, ils ont déjà été très loin. On leur a enlevé à peu près tout ce qu'on pouvait leur enlever. Mais il y a en ce moment des histoires judiciaires en Russie qui montrent que les pressions sont encore très très fortes et que ça ne cessera pas. Et la chaîne essaye d'en parler et on voit bien que le pouvoir ne va rien lâcher. Le message est clair.
Les journalistes, finalement, est-ce qu'ils reçoivent des pressions directement du pouvoir ou est-ce que c'est un peu plus subtil, un peu plus sournois ?
Quand un journaliste, par exemple, comme ça a été le cas de Timur, se fait arrêter à chaque fois qu'il doit prendre un avion, à chaque fois qu'il part, ou presque à chaque fois qu'il part en reportage, il y a eu des passages à tabac. Je crois qu'on peut dire que les pressions sont assez directes.
Et donc les journalistes de Deutsche vont continuer malgré tout à couvrir la présidentielle du 18 mars.
Ils vont le faire avec toute leur désir d'offrir une information nuancée.
Les antiquités qui se trouvent au fond des mers, au large des côtes du Monténégro, n'y seront sans doute plus pour très longtemps. Les pillards et les touristes qui font de la plongée mettent en danger tous ces trésors. Les explications de Laurent Gélin.
Des amphores, des ustensiles de cuisine, des céramiques, du verre. Dans l'Antiquité déjà, les marins illyriens, grecs et romains connaissaient le formidable abri des bouches de Kotor contre les tempêtes de l'Adriatique. Les épaves qui gisent au fond de la mer à quelques encablures des côtes du Monténégro témoignent d'échanges commerciaux florissants, de l'habileté des artisans de la République de Venise et des terribles guerres du XXe siècle. Mais ces carcasses de navires qui représentent autant de trésors archéologiques sont aujourd'hui menacées. Depuis les années 1990, les plongeurs sont de plus en plus nombreux à tirer un bon prix de ces pièces remontées à la surface. L'hélice en bronze de plusieurs tonnes du cuirassé Arpad de la marine austro-hongroise coulée en 1916 près de la péninsule fermant les bouches de Kotor a ainsi disparu. Les autorités de Podgorica ont jusqu'à présent recensé une trentaine de sites archéologiques sous-marins théoriquement protégés, mais que la direction du patrimoine n'a dans les faits aucun moyen de surveiller. Faute de budget, les agents chargés de décourager les pillards sont trop peu nombreux. En 2017, le gouvernement a bien lancé une étude pour recenser les trésors encore engloutis, mais avec un budget annuel de 14 000 euros en 2018, peu de chances que le projet avance bien vite. Pourtant, le temps presse et il n'y aura sans doute plus grand-chose à protéger si plus de fonds ne sont pas rapidement débloqués.
Rendez-vous demain pour retrouver les meilleurs moments d'Accent d'Europe.